Bon, tout le monde est revenu. On va entamer la dernière partie de cette matinée avant que vous déjeuniez dans cette même salle et que vous filiez en atelier dans les étages. Donc c'est une table ronde autour de la place du sportswear et la pratique du sport dans l'économie circulaire que l'on va questionner avec 5 intervenants. Alors, tout à fait dans le désordre, mais nous avons Géraldine Robert, qui est cofondatrice de Jog & Gym, Nathan Douillard, cofondateur de La Virgule. On va bien sûr vous expliquer ses initiatives. Tom Bresmal, de Decathlon, Agathe Mouviel, de Fashion Green Hub, et Éric Dossin, professeur et dirigeant du comité de judo du Pas-de-Calais. Je vais vous présenter plus longuement. Vous portez tous des initiatives autour du sport et de l'économie circulaire, dont j'ai une petite définition pour ce qui est de l'économie circulaire. Bien que ces définitions varient, l'essence de l'économie circulaire est de passer de modèles économiques linéaires, dans lesquels on fabrique et l'on jette en fin de vie, à un système économique donc circulaire, donc d'échange et de production qui, à tous les stades du cycle de vie des produits, vise à augmenter l'efficacité de l'utilisation des ressources et à diminuer l'impact sur l'environnement, tout en permettant le bien-être des individus. Voici une proposition de définition. La question, c'est, en présentant bien sûr chacun et chacune votre initiative, où est-ce que vous vous placez? Pourquoi vous êtes engagé dans cette question de l'économie circulaire? Est-ce qu'il y a un ou l'autre pilier que vous avez privilégié? Donc voilà, 3-4 minutes chacun pour présenter vos activités et après une question un peu plus qui va creuser un petit peu le sujet. Donc je te donne la parole en premier, Géraldine Robert, cofondatrice de Jog & Gym. Je suis désolée, je crois que je vais tutoyer tout le monde. Et donc qui est une marque de vêtements de sport éco-responsable et durable que tu vas nous présenter.
Bonjour à tous. Donc moi je suis la cofondatrice de Jog & Gym. Donc Jog & Gym, c'est une marque de vêtements de sport qui est fabriquée en matière naturelle et biosourcée et qui est colorée. Et en fait, nous on a créé cette marque donc il y a quelques mois, on est toute jeune marque, on s'est lancé en avril dernier. Autour de la conviction en fait de s'affranchir des matières synthétiques dans le sport, parce qu'aujourd'hui quand on regarde les vêtements de sport, ils sont quasiment tous en polyester et en polyamide, et en gros nous on pense qu'il y a des meilleures solutions en tout cas en termes de matière pour la pratique sportive. Et donc on s'est vraiment lancé avec cette conviction là de faire appel à des matières qui sont naturelles et biosourcées. Et au-delà de ça, nous, on veut communiquer vraiment de la bonne humeur et de la joie dans le sport. Donc, on a un vestiaire de sport qui est très coloré et voilà. Et après, sur les autres aspects éco-responsables, nous, on produit en petite série au Portugal. Voilà, et on a une vraie démarche avec des ambitions à plus long terme, parce que là, aujourd'hui, ben, ça fait que 6 mois qu'on est lancé, enfin un peu plus de 6 mois. Et donc, on n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait dès le début, mais on a plein d'ambitions pour l'avenir.
Qu'est-ce que tu peux juste en dire un peu plus sur ce que vous fabriquez, comment, un peu plus de détails sur les produits eux-mêmes?
Alors, oui, donc nous, on a lancé donc une première collection, donc on l'a lancée en financement participatif en avril dernier. On a juste lancé une tenue homme, une tenue femme, donc un short, un t-shirt à chaque fois, en 100% tencel. Donc le tencel, c'est une matière éco-responsable qui est fabriquée à partir de fibres de bois et dont le process en fait est entièrement éco-responsable. Donc en gros, c'est du bois qu'on va venir dissoudre avec un solvant naturel et qui est recyclé à 99%. Voilà pour la matière, et nous on fabrique donc chez un de nos partenaires au Portugal, et aujourd'hui on est vraiment sur des petites séries. Nous on veut vraiment garder cette idée qu'on va produire un peu en fonction de la demande et qu'on va pas créer, on a fait en précommande, là on relance une nouvelle collection dès la semaine prochaine en précommande de nouveau, donc voilà, on est sur ce système là pour l'instant. Et là, sur la nouvelle collection, par contre, on élargit un peu la gamme avec des leggings, jogging, t-shirts, voilà. Est-ce que ça répond à la question?
Oui, tu as un petit peu de temps quand même pour présenter. Est-ce que vous entendez avec ce micro? Oui, ok, très bien. Vous êtes créé en avril, c'est ça, tout récemment?
Oui, enfin, on est commercialisé depuis avril. Après, l'aventure, le projet entrepreneurial est un peu plus long parce qu'en fait, ça met du temps, en fait, il faut savoir, pour monter un projet comme ça, créer une marque, trouver les usines, faire les prototypes de ses vêtements et tout, avant de pouvoir le commercialiser. Il y a eu un an avant de vraiment commercialiser le produit, avant de faire ça. Et encore, on l'a commercialisé en précommande, donc il n'était même pas produit au moment où on s'est lancé commercialement. Donc voilà.
Et donc pour les précommandes, c'est un système de commande en ligne. On peut commander en une pièce ou plusieurs.
Oui. Alors, notre première campagne de crowdfunding, on l'a fait sur Ulule. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une plateforme qui est connue. Mais là, maintenant, nous, on a notre site internet qui est live depuis avril dernier. En fait, on l'avait prévu dès le début. Et donc maintenant, la précommande va se faire directement sur notre site.
Très bien, merci beaucoup. Je veux bien que tu passes le micro à Nathan Douillard, qui est cofondateur de La Virgule, à mes côtés, donc, qui est une marque de sacs éco-responsable, et vous existez depuis 2019. Alors, je te laisse aussi nous présenter ce que vous faites.
Très bien, merci. Bonjour à toutes et à tous. Enchanté, ravi de vous rencontrer. À la base, on est trois cofondateurs de La Virgule. Pourquoi on a créé la boîte? Parce que quand je vais faire du ski de randonnée l'hiver dans le Vercors, j'ai besoin de ski, j'ai besoin d'une veste en Gore-Tex, j'ai besoin de chaussures de ski. Et tous ces produits-là demandent énormément d'énergie pour les produire. Sont souvent, Géraldine, tu l'as bien dit, fait à partir de matières issues du pétrole. Toutes les matières plastiques proviennent de pétrole à la base. Et donc, tous ces produits-là, très techniques, demandent beaucoup d'énergie, qui viennent quasiment intégralement d'Asie, alors que nous, on pratique en France. Et à la fin de leur... qu'on ne peut plus les utiliser, ils sont pas recyclables. Selon l'ADEME qui est présente aujourd'hui, il y a 10 000 tonnes de textiles sportifs qui sont détruits tous les ans en France. 10 000 tonnes, c'est 10 millions de kilos, c'est énorme. Et on s'est dit, ok, il y a tous ces sacs à dos, tous ces produits qui sont faits à l'autre bout du monde, alors qu'en fait la matière elle est devant nos yeux, elle est à l'arrière des magasins, elle est dans nos placards, et ben on va les ressortir et on va en faire des sacs à dos et des sacoches vélo. Donc là j'ai un petit exemple, hop, ça c'est une sacoche vélo qu'on vient clipser à l'arrière de son vélo, qui est faite à partir de toiles de Zodiac, donc les bateaux semi-rigides là qu'on voit un peu partout sur les plages. Ça c'est de la corde d'escalade, ça c'est des ceintures de voiture qu'on récupère dans des casses automobiles, donc il y a... Ces ceintures, elles n'étaient pas utilisées non plus, donc un petit coup de ciseau et elles nous sont envoyées dans nos ateliers. Et à l'intérieur, vous n'allez pas bien voir, mais c'est des ailes de kitesurf qu'on récupère. Donc ça, c'est des prototypes. Les prototypes sont testés énormément, mais ne sont pas commercialisés. Donc on les récupère encore une fois pour leur donner une seconde vie. Donc on a plusieurs types de matières. On a celles qui sont issues des industriels, parce que les industriels produisent notamment la toile de Zodiac. Une production, c'est jamais 100% parfait, malheureusement. Et donc, il y a des rebuts de production, il y a des chutes de production. Et donc, on vient collecter ces produits-là. Les ceintures, j'en ai parlé, les prototypes aussi. Et donc, toutes ces parties sont désassemblées en France dans des ateliers d'insertion. Donc, des gens qui sont un peu éloignés de l'emploi, c'est le premier pas pour retrouver un job de façon pérenne. Et ensuite, on travaille des ateliers en France et au Portugal pour la conception, la confection, donc la couture. Et avec le but d'avoir une production en Europe pour un marché européen, qui est celui, du coup, ce que j'ai dit, des sacs à dos, des sacs de voyage. Là, on a sorti des petites bananes faites à Lille dans une entreprise d'insertion, qui sont faites à partir de kitesurf, soit de tentes, ou encore de canots de survie. Et donc, vraiment, tous ces matériaux, ça paraît dingue, qui sont encore, vous le voyez, elles sont, on dirait, un sac qui est complètement neuf. Elles étaient destinées à partir dans un trou, ou au mieux être incinérées pour faire un peu d'énergie. Voilà.
Merci. Comment vous récupérez, comment vous collectez toute cette matière?
Alors le projet, il est parti au début des kayaks gonflables de Decathlon. Donc il y avait environ 1000 kayaks gonflables tous les ans qui n'étaient pas encore réparés à l'époque. Et donc on récupérait, l'idée c'était de récupérer les 1000 pour en faire des sacs à dos. Au fur et à mesure, Decathlon s'améliore et répare une grosse partie des kayaks. Il en reste encore à peu près un quart qui ne sont pas réparables pour plein de raisons différentes. Une couture qui n'est vraiment pas réparable ou ça coûterait vraiment trop cher pour le faire. Donc ça, on les récupère. Après, c'est aussi les industriels, ce que j'ai dit, qui ont ces problèmes de production, soit sur la chute, soit sur les rebuts. Et après, plein de marques. Là, on va commencer à travailler avec North Face pour récupérer des vestes et des pantalons de ski, donc des trucs encore techniques, pour en faire probablement des bananes ou alors des poches à l'intérieur des sacs à dos. Ce qu'il faut se dire, c'est que chaque matière a une propriété. La toile de Zodiac, elle est increvable. C'est vraiment le truc très costaud qui va vous permettre d'aller sur l'eau de façon sécurisée. Pour l'extérieur du sac, c'est parfait parce qu'on veut un truc qui tienne bien. Par contre, à l'intérieur, je n'ai pas forcément envie de mettre encore quelque chose de très lourd et de très costaud. Je vais plutôt chercher quelque chose de léger. Donc l'aile de kitesurf, elle est parfaite parce qu'elle reste très costaud. l'aile de kite, je peux vous dire que c'est du solide quand il y a 40 nœuds qui se mettent dedans. Et donc ça, on va venir les mettre à l'intérieur, ça va rajouter de la couleur. Et après, les accessoires, les ceintures de sécurité, on s'en sert beaucoup pour les bretelles, parce que si elle est censée vous sauver en cas d'accident, normalement, ça devrait suffire pour les 10 kilos que vous allez mettre dans votre sac tous les jours.
Donc c'est vous qui faites appel, vous avez un système de plateforme ou de rencontre entre cette recherche de matière et les industriels ou des marques qui ont cette matière à donner. Comment ça fonctionne en fait, la mise en lien?
Ouais, carrément. Au début, c'était vraiment nous qui allions chercher ces entreprises. On commençait au plus proche. Pourquoi c'était Decathlon? C'est qu'un de mes associés était ingénieur produit chez Decathlon. Et donc le lien se faisait très vite. Et après maintenant, c'est nous qui allons vers les autres marques en leur disant vos déchets, nous, c'est nos matières premières. Et ça permet aussi de vraiment montrer l'avantage de l'upcycling, contrairement au recyclage. C'est que, comment je fais de l'upcycling? Je récupère un canot de survie, par exemple, je le découpe, je le nettoie, et je peux le recoudre derrière. Là où le recyclage, vous allez devoir le broyer, ça va être du granulat, ensuite vous allez devoir le refiler, le retisser, etc. Donc c'est des étapes qui sont beaucoup plus demandeuses d'énergie, notamment. Et donc l'upcycling a la chance d'être faisable chez vous. Vous avez une vieille veste, vous voulez en faire une banane, vous pouvez... Et ça, c'est quand même chouette avec l'upcycling.
Très bien, merci. Bon, on aura l'occasion de poser des questions sur vos initiatives. Alors, bien, on peut enchaîner avec Tom Bresmal, justement de Decathlon. Tu es Sustainability Leader Olympic Partnership Paris 2024, donc les Jeux Olympiques Paris 2024. Voilà. J'ai ce titre en anglais. On vient d'évoquer Decathlon. Vous êtes partenaire officiel des Jeux Olympiques 2024, engagé dans une économie circulaire. Donc tu peux nous présenter aussi ce que fait la marque sur ce sujet et peut-être répondre aussi à ce que vient nous expliquer.
Oui. Bonjour à tous, merci pour l'invitation encore. Effectivement, il y a pas mal d'engagement aujourd'hui chez Decat sur ces sujets d'économie circulaire. Nathan a parlé notamment de deux grandes thématiques que sont le recyclage et le upcycling. Peut-être moi pour vous expliquer un peu l'histoire et ce qui fait qu'aujourd'hui on travaille dans ce partenariat avec les Jeux Olympiques sur des sujets d'économie circulaire. J'ai rejoint la France il y a un an. Moi, j'avais plutôt une expertise côté management. J'ai travaillé dans le... Ok, ça fonctionne? On m'entend? J'ai travaillé du coup pas mal d'années dans la transformation des modèles, mais plutôt des modèles économiques et pas des modèles de production. Et quand je suis arrivé en France il y a un an, en fait j'ai eu cette chance d'être un peu naïf sur les sujets de production et de pouvoir du coup être assez critique sur ce qui était engagé dans les différents sujets. Et lorsque j'ai pris cette fonction, on m'a expliqué que ce qui était engagé en termes d'économie circulaire était largement basé sur l'éco-conception. Et quand j'ai un peu creusé, pour essayer de comprendre ce dont il s'agissait, vu que je n'avais pas encore spécialement de connaissances, on m'a expliqué que l'éco-conception, en tout cas aujourd'hui tel qu'il était défini, on essayait surtout d'améliorer les processus de conception pour gagner jusqu'à 10, voire 20% maximum en termes d'impact CO2 notamment. Et le gros souci que moi j'ai pu constater à cette époque-là et que on partage un peu tous, c'est que en fait on doit replacer cette réalité-là dans le réel. Et le réel aujourd'hui, c'est un monde qui est en croissance. C'est un monde qui est encore basé sur le toujours plus de consommation, toujours plus de fonctions économiques. Et pour une grande entreprise comme Decathlon, c'est aussi la réalité. C'est la volonté d'être dans toujours plus de pays, de créer toujours plus de valeurs économiques et donc de vendre toujours plus de produits. Et le gros souci du coup de l'éco-conception que moi je constatais, c'était que finalement lorsque on atteignait cette barre de 10 ou 20% de réduction d'impact et qu'on corrélait ça avec la croissance du groupe, c'est-à-dire le volume des ventes, en fait l'équation elle était nulle parce que quelque part on se rendait compte qu'on allait toujours avoir autant d'impact sur la planète en termes de CO2. Et donc moi quand je me suis rendu compte de ça et que à côté de ça je m'étais engagé sur sa responsabilité là pour le partenariat avec les Jeux Olympiques, Je me suis dit, il y a un truc qui ne fonctionne pas, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les Jeux Olympiques s'engagent pour être les premiers Jeux, en tout cas ceux de Paris 2024, les premiers Jeux qui vont être vraiment acteurs d'un changement et d'une réduction de l'impact d'événements de cette envergure. Et donc, ils ont cette ambition de vraiment essayer de diminuer l'impact au moins par deux. Et après, bon, dans le détail, il y a plein de choses qui font que ce sera peut-être possible ou pas. Mais peu importe, la volonté, elle est là et c'est le plus important dans un premier temps. Ce qui voulait dire que si moi je m'engageais dans sa responsabilité-là, côté Décathlon, mon ambition à moi, c'était aussi de faire en sorte que notre impact soit réduit par deux. Et donc là, je comprenais qu'avec l'éco-conception, c'était pas possible, vu qu'on réduisait pas l'impact par deux, et surtout qu'on allait produire des produits en plus sur le marché. Donc en fait, l'un dans l'autre, c'était juste impossible. Et du coup, en creusant un peu la question, et c'est là où je fais le lien avec vraiment l'économie circulaire, puisque à mon sens, de manière très rigoureuse, la question de l'éco-conception ne fait pas vraiment partie de l'économie circulaire. Mais l'économie circulaire, on est sur quelque chose qui maximise au maximum la vie d'un produit et qui peut lui promettre la réutilisation un maximum. Et là-dedans, je me suis aperçu que ce qui posait le plus problème dans la conception d'un produit neuf, chez Decathlon, mais partout, je pense, c'est toute la partie extraction de matières premières, transformation de ces matières premières en composants, et puis transformation de ces composants en produits finis. Et donc toute la partie composant neuf, finalement, de son extraction à son traitement. Et donc j'ai eu la naïveté de dire, produisons des produits sans aucune matière première neuve, et si possible 100% en France pour profiter de plein de choses superbes en France, c'est-à-dire un mix énergétique favorable et surtout la création d'emplois et le maillage d'entreprises de type ESS. Et donc c'est comme ça que l'histoire est née, de manière un peu naïve, et aujourd'hui on est en train de démontrer à notre mesure que l'on peut réussir à faire de l'upcycling textile, parce que c'est ça aujourd'hui le plus gros enjeu pour nous, c'est un peu moins les accessoires, vu qu'en fait il y a déjà des acteurs incroyables qui le font sur des accessoires comme Nathan de la Virgule. Nous on se disait, tiens, l'enjeu sur du textile, de la parka, du pantalon, des premières couches, du board short, du t-shirt, comment on fait de l'upcycling? Et là, moi je rentrerai pas dans les détails parce que c'est encore un peu confidentiel, mais en tout cas on est en train de démontrer que à partir de matières qui sont les nôtres, et donc qui ont déjà eu une vie sur le marché, donc des articles sportifs textiles, on a la capacité aujourd'hui de les récupérer et de les transformer pour qu'ils deviennent des autres produits textiles et leur redonner du coup une nouvelle vie sur le marché. Voilà.
Très bien, merci. Donc si je comprends bien, il y a une création de collection dans le cadre de ces Jeux Olympiques 2024, qui est de quel ordre, quelle nature, qu'est-ce que vous allez produire exactement ?
Oui, il y a encore un peu des choses confidentielles, mais effectivement, en fait, la question des jeux, c'est un peu c'est de saisir une opportunité d'un partenariat qui est nouveau dans la boîte et qui permet du coup d'amener plein de choses nouvelles et d'aller sur de l'innovation. Et donc, en fait, dans l'idéal, on aurait bien voulu lancer sans doute ce genre de projet, même en dehors du sujet des Jeux Olympiques. Donc les Jeux Olympiques ne sont pas vraiment l'écrin le plus parfait pour faire ce genre de produit. Par contre, c'est ce qui a déclenché toute l'initiative. Donc on en est tout à fait ravis et on va utiliser ce sujet aussi pour pouvoir en fait peut-être faire parler de ce sujet. Mais l'ambition là, c'est de créer toute une collection qui va être portée par nos athlètes. Voilà, on a 33 athlètes qui sont aujourd'hui partenaires techniques de Décathlon et qui vont essayer de se qualifier pour les Jeux Olympiques. Et donc c'est avec eux qu'on essaie de co-créer aussi ces produits-là, pour amener aussi de l'expertise technique et stylistique sur ces produits. Et donc on va faire une collection qui est un peu en partenariat avec eux, et puis qu'on va essayer aussi de commercialiser pour le plus grand nombre. Bon, les quantités, c'est encore un peu difficile à définir. En tout cas, l'objectif en interne, c'est bien d'industrialiser, et donc de ne pas être sur des volumes qui vont être en fait non significatifs, mais plutôt essayer d'aller chercher des volumes assez importants. Et peut-être le rêve absolu, c'est de parvenir à produire des typologies de produits qui vont pouvoir être des parfaits suppléants des produits neufs. Et donc se dire, si aujourd'hui on parvient à créer, j'imagine, je sais pas, un pantalon en upcycling, l'idée c'est pas de le rajouter à nos collections, mais de faire en sorte qu'on en retire un neuf de nos collections grand public pour y mettre celui upcyclé à la place.
Très bien, donc là on serait vraiment dans l'économie circulaire qui ne vient pas s'ajouter à une production de matière, mais la supplanter, la suppléer. Alors Agathe Mouviel, je te donne la parole, tu es pilote des opérations Hauts-de-France à Fashion Green Hub, que je te laisse aussi donc, le temps de nous présenter. Vous êtes aussi complètement impliqué dans cette question de l'économie circulaire, dans le sport aussi également.
Oui, effectivement. Alors déjà je vais vous expliquer un peu mon parcours, comme ça vous allez comprendre les initiatives de l'association. Donc moi, j'ai fait des études dans le textile, etc. Et tout de suite après l'école, je suis partie en Asie en me disant, le textile, c'est là-bas que ça se passe. C'est pas chez nous. Et donc je suis partie vivre 5 ans à l'étranger. J'ai découvert, j'ai vu plein de pays, plein d'usines de production pour plein de marques différentes, avec du coup des process différents, des stratégies différentes, des manières de faire aussi culturelles différentes. Et c'est dans ce contexte vraiment que j'ai vu en fait ce que c'était réellement, sans mettre le mot dessus à l'époque, hein, de dire c'est quoi l'impact du textile en fait. Qu'est-ce que ça veut dire de transformer la fibre en fil, du fil en tissu et du tissu en produit fini. Nous ici, en fait, beaucoup, ce qu'on voit, c'est du tissu au produit fini. Et on se dit, c'est des opérations de main-d'œuvre. Voilà, on vient coudre. Voilà, il y a un savoir-faire, c'est un peu artistique, etc. Il y a une compétence derrière qui est belle. Et c'est ça qu'on voit. Sauf que toutes les parties en amont, tout le process en amont, il est extrêmement lourd, extrêmement long. Et extrêmement dur. Et voilà, aujourd'hui, grâce aux impacts, etc., aux calculs d'impact environnementaux, on sait que cette transformation de matière, c'est quasiment 70% de l'impact d'un produit. Et donc, enfin, voilà, c'est un peu une redite, mais du coup, c'est ce qui se dit ici avant, c'est que le choix de la matière et la manière dont vous travaillez cette matière, ça passe au-dessus de tout. Et donc, voilà, c'est toutes ces démarches aujourd'hui qui sont faites. Donc après avoir été à quand même mettre beaucoup, 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 beaucoup de produits sur le marché avec un objectif d'en mettre toujours, toujours, toujours plus sur le marché, quand même voilà, une envie avec cette connaissance de comment ça se passe dans le milieu de la production, de comment ça se passe en termes de définition de stratégie des entreprises, une envie de participer du coup au sein de l'association de Fashion Green Hub à l'accompagnement de la transformation des modèles économiques des entreprises. Quelle que soit la taille des entreprises, il y a une envie de quand même faire autrement et de faire mieux. Et ça, c'est sûr, hein, faut pas, enfin voilà, tout le monde parle de greenwashing, etc. Mais tout le monde a envie de faire autrement. Personne ne fait le choix de détruire l'environnement, de détruire la planète. Non, c'est juste qu'aujourd'hui, il y a des contraintes qui sont fortes. On est allé très loin dans un système économique qui, des fois, nous empêche de bouger. Et donc, au sein de Fashion Green Hub, on est vraiment là pour essayer, humblement et voilà, avec la capacité qu'on peut avoir et la volonté qu'on peut avoir, on essaye d'accompagner les entreprises à se transformer. Donc, il y a le premier volet, c'est réellement moins produire. C'est un sujet. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, la sobriété, la frugalité, la réduction, tout ce qu'on veut. Mais ce sujet, il est primordial. Et donc, comment des grandes marques qui embauchent 2000, 3000, 5000 employés font pour réduire leur volume de production, elles se transforment, elles doivent inventer d'autres manières de faire. Aujourd'hui, ce qu'on voit beaucoup dans ces autres manières de faire, c'est la seconde main. Toutes les marques aujourd'hui se mettent à avoir des plateformes en ligne de seconde main, des corners de seconde main en magasin, etc. Elles ne font pas ça que parce que c'est tendance en ce moment. Elles le font parce qu'elles ont conscience qu'elles vont vendre moins demain. Donc elles doivent trouver une autre source de revenus. Donc il y a cette seconde main, il y a la location, il y a la réparation. Il y a plein de sujets aujourd'hui qui sont traités par ces entreprises et ça demande du temps, ça demande de l'investissement de la part de ces entreprises et ça demande vraiment un travail de fond qu'on essaye d'amener. Ça c'est pour les grandes entreprises et après il y a tout l'accompagnement des créateurs qui arrivent sur le marché, etc. et qui sont confrontés à plein de difficultés. Parce que quand on parle d'upcycling, donc je vous l'ai dit, il y a la matière. Donc quelle matière je choisis, comment je la source, quels sont les bons acteurs. Si je veux être un peu puriste et que je veux travailler qu'en région, ben, qui ? Comment je fais pour trouver ces infos ? Comment je prends contact avec ces gens, etc. Donc c'est aussi une vocation de Fashion Green Hub, bah, d'aider en fait les créateurs de l'asso à rentrer dans un réseau et à trouver les bons leviers et à amener à créer du produit et surtout à trouver un modèle économique viable, puisque c'est quand même l'enjeu de chacun. Hein. C'est, on a envie de faire quelque chose, mais on a envie de pouvoir en vivre, on a envie de manger, on a envie de s'acheter aussi des choses, etc. Et donc il faut que tout ça soit équilibré. Donc c'est un énorme enjeu vraiment de, voilà, de prise de conscience. On fait beaucoup de sensibilisation. Il y a de l'événementiel, vous connaissez peut-être les salons, etc. Et donc tout est fait pour rentrer dans un collectif, partager, mutualiser, échanger et vraiment, bah, comme on dit, hein, ensemble on est plus fort. Même si on est un entrepreneur seul ou avec deux, trois partenaires, c'est toujours bien de faire partie quand même d'un groupe et de pouvoir voilà, avancer ensemble.
Qu'est-ce que ça représente en termes d'activités, de partenaires, qu'on ait un peu une idée
Alors Fashion Green Hub aujourd'hui c'est 400 membres en France, donc ce qu'on appelle des membres, bah, voilà, c'est des entreprises uniquement. Nous on est une association à destination des entreprises, pas à destination des citoyens. Voilà, on ne va pas faire des événements, des petits ateliers de do it yourself, etc., de quartier. Ça, ce n'est pas du tout notre vocation. Nous, on est vraiment avec des personnes qui veulent monter une entreprise, on va dire, enfin, ou qui ont une entreprise. Donc, 400 membres en France. On est 130 en région Hauts-de-France. C'est à peu près 80% de créateurs. Voilà, donc personnes, des entreprises qui sont une, deux, trois personnes max, ce qu'on appelle les créateurs chez nous. C'est 10% de grandes entreprises, donc on a beaucoup de grandes entreprises de la région, enfin voilà, les marques de la région du Nord, hein, je pense que vous connaissez, et 10% des écoles, voilà, dont vous faites quasiment toutes les écoles ici présentes sont adhérentes de l'association. D'ailleurs, sachez qu'en tant qu'étudiant dans ces écoles, vous avez accès à tous nos services, je pense que ça c'est important. Et donc 10%, donc il y a une partie d'école, il y a des cabinets de consulting, il y a d'autres associations régionales, mais aussi on travaille de plus en plus avec la Belgique, etc. Toujours dans cette idée de faire du lien. Voilà un peu l'écosystème. Et bien sûr, on a aussi de la partie un peu industrielle. On a un teinturier, un filateur, pas mal de confectionneurs. On travaille avec une petite quarantaine d'ateliers de confection de la région. Toujours dans cette idée d'aider le créateur à pouvoir produire des plus ou moins gros volumes, etc., et à mettre sur le marché.
Très bien, merci. Je vais donner la parole à Éric Dossin, professeur, dirigeant du comité de judo du Pas-de-Calais et aussi fondateur de Groom Service, qui est un service de collecte, de réemploi et de recyclage de kimono. Je te laisse également nous présenter.
C'est bien, professeur, on a beaucoup d'élèves, c'est merveilleux. Mais ça ne veut rien dire, professeur. Moi, je suis surtout un passionné de sport. D'accord, donc j'étais sportif de haut niveau. Alors, je suis dirigeant du comité du Pas-de-Calais parce que ben, il faut à l'intérieur de structures, il faut structurer. Et dirigeant, ça ne veut rien dire non plus. Alors pourquoi récupérer des kimonos ? Vous êtes tous ici sur une idée de recycler. J'ai découvert un superbe sac. Quand je vois dans une déchetterie un bateau gonflable, puis à la fin on a un super sac comme ça, mais écoute, moi je dis bravo. Merci. Voilà. Bravo. Alors dans notre discipline, moi je parle de durée de vie. J'ai rencontré des gens de l'ADEME hier par exemple. On parle de durée de vie. Est-ce que vous savez la durée de vie d'un kimono ? Ça va de 2 heures à une année. Non, la férocité du combat, mais selon, à aujourd'hui, on a des gamins qui sont zappeurs. D'accord ? Donc, Décathlon, qui est juste à côté de moi, c'est un des fournisseurs, un monsieur de chez Décathlon, excusez-moi. Voilà. Donc, un gamin qui veut faire du judo, il achète un judogi ou un kimono chez Décathlon, ça vaut 10 euros. Et ça dure entre 2 heures parce que son père n'avait pas bien compris qu'il voulait vraiment jouer à la PlayStation, mais pas forcément faire du judo, pas forcément faire du sport. Mais il a quand même acheté un judogi à 10 balles. D'accord. Et ça peut durer une année parce que ben, le gamin, il va faire autre chose l'année prochaine ou il va grandir. Mais ces kimonos, ils restent dans des placards partout dans le département, dans la région, au niveau national. Et à la fin, ça fait des tonnes, des tonnes, des tonnes, des tonnes de kimonos. Et puis des kimonos qui pourraient resservir à des gamins qui n'en ont pas forcément les moyens. Et donc moi, je suis parti de ce principe-là, c'est-à-dire que d'un vêtement qui était qui est basique. Comment on peut le récupérer? Donc on est en train de mettre en place avec les différents clubs d'abord du Pas-de-Calais pour faire un essai, après de la région. On va essayer de le faire au niveau national. Le principe des piles. C'est vrai, on a un carton, on met des piles. Dans un carton, on recycle les piles. Maintenant, on va recycler des kimonos. Alors on va recycler des kimonos pour soit les louer, parce qu'à la rigueur, peut-être une solution de les louer. Vous parlez justement de location, et c'est vrai que c'est une grosse mode. Les louer à 2 balles. On va louer 2 € un kimono qui en vaut 10. Il va faire peut-être 4 heures au lieu d'en faire 2, ce serait peut-être bien. On aura doublé l'objectif de ce kimono. Mais peut-être que le gamin qui n'avait pas les moyens de se l'acheter, ce kimono, ben, il va faire une saison complète. Et puis l'année prochaine, on récupérera ce kimono. Alors j'ai plusieurs activités. J'ai une activité où on a des laveries. Bon, on va laver les kimonos, comme ça on va les remettre propres. Et puis d'une année à une autre, le kimono il va faire une année, 2 ans, 3 ans. Après, j'ai découvert hier qu'on pouvait recycler, récupérer des fibres. J'ai bien retenu ma leçon hier. Hein, quand même. Donc on pouvait refaire des fibres avec ça, puis refaire des kimonos. C'est là où on est parti d'un principe de départ où on a un objet, puis à la fin on va le retransformer pour refaire un objet. Et puis là, on n'a pas besoin d'aller chercher de la source, parce que la source, on l'aura déjà. Et je pense que c'est l'idée de départ de notre activité.
Bien, passionnant, même s'il n'y a pas trop de férocité dans les combats. Mais ça veut dire que...
Moi, j'étais champion d'Europe, donc je pense que j'ai fait un petit peu de férocité, oui, je pense que le gamin qui commence le judo, il faut qu'il se fasse plaisir. Après, il se battra, il y aura d'autres occasions, vous savez, de se battre dans la vie.
Il se défendra même, voilà. Non, donc ça veut dire que vous êtes dans l'économie circulaire avec un fort pilier social, finalement, en réemployant et en permettant la réutilisation et l'accès aussi, finalement, au sport à travers cette initiative.
Tout à fait. En réalité, alors je ne suis pas venu faire de la politique, on parle de Paris 2024, c'est un super événement qui a lieu en France, on en est tous super contents, mais avant de faire Paris 2024, il faut former les jeunes. Il faut avoir par exemple, Décathlon, ils ont 30, j'ai découvert, mais c'est très bien, ils aident 30 futurs champions, d'accord, c'est pas seulement avoir un beau vêtement, c'est aussi avoir un petit salaire, avoir un petit peu tout ça. Et dans la Fédération Française de Judo, il y a un projet qui s'appelle 1001 Dojo. Donc 1001 Dojo, c'est... aux derniers Jeux Olympiques, le président de la République a reçu de notre président. Et puis notre président, il a un petit peu provoqué. Vous savez, les judokas sont comme moi, c'est tous des provocateurs. Donc il a un peu provoqué, il lui a dit, écoute, t'es bien gentil, tu veux des champions, tu veux des médailles à Paris 2024, mets un peu de sous sur la table. Mets un peu de sous sur la table et puis fais des dojos. Et puis les dojos, il faut les mettre dans des quartiers. Alors... pas forcément au milieu de Paris, dans le 16e, mais peut-être à Roubaix, à l'Épeule. Et ça part toujours de ce principe-là, en réalité.
Vous allez aussi récupérer, kimonos auprès de grandes enseignes. Ce serait aussi un projet.
Alors, au départ, nous, on veut récupérer ça à travers les clubs. D'accord ? Pourquoi ? Pour des questions de simplicité. On enseigne dans les clubs, on donne un petit flyer. Si tu as un kimono qui traîne, ramène-nous-le. On va travailler avec les déchetteries aussi, avec les ressourceries, tout simplement parce que Là, c'est, après, c'est une histoire de récupération. Si on va mettre 20 000 euros pour récupérer des kimonos qui valent 1 euro, ça ne sert à rien. Donc, on va essayer de trouver déjà des solutions de simplicité. C'est-à-dire, on a des clubs, on récupère dans les clubs. On est présent dans les compétitions départementales, régionales, nationales. Bah, l'idée, c'est de collecter à cet endroit-là, si vous voulez. Après, dans un deuxième temps, c'est refaire partir les kimonos dans l'autre sens, c'est-à-dire les ramener dans les associations pour pouvoir les louer. Voilà, tout à fait.
Merci, mais on a comme matière, vous allez utiliser cet après-midi, notamment des kimonos, il me semble en avoir vu en haut, donc il y aura des kimonos que vous pourrez utiliser pour créer vos parures cet après-midi. Géraldine et Nathan, vous êtes deux petites initiatives, vous vous lancez, on est en train de parler de grands modèles économiques, de transformation des modèles économiques. J'imagine que, enfin, déjà j'ai une question, c'est quand vous vous êtes lancé dans l'économie circulaire, est-ce que vous êtes tous les deux en fabrication française, tous les deux sur, non pas vous, Portugal ? Portugal, voilà. Non mais c'est intéressant aussi, vous aussi. D'accord. Ben justement, comment en fait vous faites ces choix? Comment on fait quand on est une petite marque pour choisir de quelle façon on va pouvoir mener un projet le plus... est-ce qu'on essaie de le prendre dans tout son ensemble, de privilégier l'un ou l'autre des piliers? Et peut-être en deuxième partie, quel est le défi en fait là pour que ces initiatives émergent? C'est vraiment intéressant parce qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, on avait des initiatives similaires. Donc c'est vraiment très enthousiasmant de voir que des initiatives comme les vôtres émergent beaucoup, beaucoup en sport en outdoor, en sport de montagne, en sport nature, la récupération comme ça. Et en plus, c'est des matériaux hyper solides, très stylés. Donc, on a envie que ça se déploie, en fait. On a l'impression que tout le monde devrait, en fait, avoir un sac de kayak et des vêtements fabriqués de manière circulaire. Donc, voilà, c'est une question un peu large, mais comment on s'engage dans ces initiatives et quels sont un peu les défis?
Donc je vais commencer. Ouais. Nous, en fait, juste pour l'histoire, nous, on est deux sur le projet, donc il y a Vincent et moi, et en fait, on ne vient pas du tout de l'industrie textile. Donc on s'est lancé dans ce projet parce qu'en fait, initialement, on est deux sportifs et on voulait innover dans le sport. Il nous manquait un truc dans l'industrie sportive. Et en fait, du coup, on s'est lancé ultra naïvement dans cette industrie-là. Avec plein d'ambitions éco-responsables qui nous tenaient à cœur. Donc, nous, on s'était dit, on ne veut pas de polyester, on veut fabriquer en France, on veut faire un truc petite série, précommande. Enfin, en fait, on a pris tous les trucs éco-responsables et on s'est dit, nous, on va faire tout ça et tout. Et comme je vous ai dit, en fait, on a bossé pendant plus d'un an même sur le projet avant de le lancer. Et en fait, ça a été super long et on s'est confronté à plein de choses de la réalité en se rendant compte qu'en fait, si on voulait faire tout ça, jamais on commercialiserait en fait notre produit parce que en fait notre matière nous est chère. Si on voulait faire en France, nous, on a tout fait prototyper au démarrage dans un atelier à Roubaix. Et quand ils nous ont donné les coups de prod, on s'est dit, en fait, on ne va pas pouvoir faire tout. Ces petites quantités, faire une matière éco-responsable et voilà. Donc en fait, il a fallu faire des choix. C'est au fur et à mesure, on s'est dit le Made in France, on le garde quand même en tête, mais en tout cas, là pour cette collection, c'est ce lancement. Si on veut exister à un moment donné, il faut quand même se lancer. Nous, quand on est entrepreneur, en gros, on a un laps de temps pour que ça marche et pour que ça prenne aussi. Donc, il y a un moment, il faut y aller, quoi. Donc, on s'est dit, ça, on le met de côté. On est parti au Portugal pour produire au Portugal. On est resté quand même européen, c'est super important pour nous. On source aussi toutes nos matières en Europe, donc notre tissu est fabriqué dans la même usine où on confectionne, donc ça permet aussi qu'il n'y ait pas 10 000 allers-retours et tout, donc ça, on y a fait attention. Mais on sait qu'il y a plein de choses sur lesquelles on n'est pas encore bon, et ça, comment on sait? C'est aussi qu'on a fait le travail un peu d'analyse de cycle de vie de notre produit en se disant, OK, on s'est posé, on s'est dit, du coup, c'est quoi les étapes ? On a regardé, et aujourd'hui, on sait que, par exemple, sur la teinture, on n'est pas encore bon. Voilà, enfin, il y a le lieu de fabrication qu'on aimerait bien un jour, faire des séries en France, tout ça. Mais voilà, il y a plein de postes où on se dit, ben, on pourrait faire mieux, mais on ne pourra pas tout faire dès le démarrage. Et donc, ça va prendre un peu de temps. Là, on s'est un peu structuré sur nos engagements. On s'est dit que pour 2023, on avait trois choses qu'on aimerait faire. Donc nous, il y a justement sur la petite série en matière naturelle, en gros, ici, on est sur une terre où le lin est super important et où en fait, il y a quand même beaucoup d'ateliers de fabrication. On aimerait bien sortir un vêtement en lin fabriqué ici dans le Nord. Donc, parce qu'en fait, ça ne nous paraît pas si compliqué que ça de faire ça. Et voilà, ce sera un test. Donc ça, c'est ce qu'on aimerait faire pour 2023. Il y a aussi, justement, sur la circularité, nous, on est, enfin là, je comprends que c'est le thème, mais nous, on est effectivement plus sur de l'éco-conception que vraiment sur la circularité. On a lancé le produit sans, bien sûr que là, on s'est dit, on va faire du 100% Tencel, on ne va pas faire des mix de matières, parce que ce sera plus facile aussi à recycler derrière et tout, mais n'empêche qu'on n'est pas allé jusqu'au bout du process en se disant, bah, concrètement, il faut recycler notre t-shirt, là, moi, je ne sais pas vous répondre, je ne sais pas encore comment le faire. Donc ça, c'est aussi une des ambitions pour 2023, d'éclaircir un peu cette fin de vie. Sachant que j'espère que la fin de vie, ce ne sera pas pour tout de suite, parce que nous, ça fait que 6 mois que c'est commercialisé, donc j'espère qu'on a un peu le temps. Donc voilà, et après, on a un troisième enjeu, mais ça, c'est plus sur le sport, parce que nous, on est passionnés de sport, et en fait, au-delà de l'industrie textile, il y a aussi la promotion du sport, et nous, on aimerait bien promouvoir un peu le sport au niveau social. C'est super important pour nous. Nous, on s'est lancé dans cette aventure aussi pour montrer que le sport, c'est pour tous et que c'est un... Enfin, nous, on est persuadés que c'est un super levier. Donc, voilà.
Donc aussi une démarche de démocratisation du sport à travers ce type de
ouais.
d'initiative.
Oui.
Très bien. Merci, Nathan. Un petit peu les mêmes questions sur comment on se lance dans cette aventure et puis les défis.
Bah, tu as très bien résumé. Nous, on avait la même envie au début, donc je ne vais pas revenir sur le côté. Au début, on veut tout faire et finalement, on se rend compte que ce n'est pas possible et que si on fait tout, on ne fera rien. Et donc, c'est un peu la technique des petits pas. C'est OK, on va commencer. Déjà, au début, on récupérait des kayaks, mais personne ne savait coudre. Donc, c'était déjà quelque chose d'assez perturbant. Donc déjà, on a appris à coudre. Ensuite, quand on a appris à coudre, au début, on faisait des horreurs. Donc, je ne sais pas si tout le monde coud, mais en tout cas... vous verrez qu'au début, ça ne ressemble pas à grand-chose. Et puis plus on en fait, plus ça ressemble à quelque chose. Et quand vous avez quelque chose qui ressemble à quelque chose, c'est là où il faut aller voir d'autres personnes et leur dire « Attends, tu penses quoi de mon premier prototype de sac à dos ?» Et donc soit on va te dire « Ça c'est bien, ça c'est pas bien. » Et donc tu vas faire une deuxième version de ce sac à dos qui sera encore mieux parce que tu te seras amélioré en plus. Et donc au fur et à mesure, tu vas l'améliorer. Et puis quand tu arrives à un truc où tu vas avoir 10 personnes, tu en as 9 qui disent « Ah ouais, il est pas mal ton sac à dos. » Là, tu dis « Bon, là c'est le moment d'aller maintenant voir des ateliers. » Et donc c'est ce qu'on a fait, on a visité pas mal dans la région pour commencer, parce que c'était quand même beaucoup plus simple de faire au plus local. Donc on est allé à Calais dans un ESAT, donc avec des personnes qui ont des petits handicaps, et donc un endroit adapté pour eux. Et donc on a commencé dans cet atelier-là, et donc ils nous donnent un prix. Effectivement, au début on s'est dit, oula, finalement le sac, ils ne vont pas pouvoir le vendre au prix qu'on voulait. Et donc on a lancé une première campagne, exactement comme Jog & Gym, de financement participatif. Et donc on avait ce test, on s'est rendu compte, ok, on a des clients, le produit plaît partiellement, mais il plaît quand même à certaines personnes, mais surtout le projet a du sens. Et on répond à un besoin des entreprises qui ont toute envie de faire mieux, on l'a bien rappelé aujourd'hui. Et donc nous, on venait leur apporter une solution. Donc en fait, l'étape d'après, c'était OK, maintenant on a fait les kayaks, maintenant qu'est-ce qu'on va récupérer d'autre ? On va développer d'autres produits, et donc au fur et à mesure, on grandit comme ça, on récupère d'autres produits, on voit d'autres entreprises. Et nous, ce qui nous tenait à cœur, c'était notre mission. Pourquoi moi je me lève le lundi matin avec le sourire, je vous le promets, même quand il fait moche. C'est qu'on rend le monde du sport circulaire. Rendre le monde du sport circulaire, en fait, la circularité, il y a plein de possibilités. Là, on est parti du principe, OK, je récupère les déchets, donc j'évite des déchets que je vais réutiliser. Donc ça, c'est une étape de circularité. La deuxième, c'est aussi demain, quand on travaille avec Decathlon, c'est le bon exemple, les kayaks gonflables, il en reste un quart qui ne sont pas réparés, comment ce quart-là, potentiellement, on va le concevoir autrement pour que les kayaks demain on puisse upcycler 90% du kayak et plus 70%. Parce que vous imaginez la pointe du kayak, elle est plus compliquée à upcycler pour faire un sac à dos parce que les morceaux sont tout petits. Et donc demain potentiellement on pourrait développer avec Itiwit qui est la marque de kayak gonflable et se dire ok bah et peut-être que demain vous allez même nous imprimer les patrons. Donc ça veut dire que sur le kayak vous aurez les petits traits de découpe. Et donc, bah nous, quand l'atelier récupère ces produits-là, en fait, on n'a plus qu'à découper sur les pointillés. Et ce qui est génial, c'est que du coup, tu expliques à ton client, quand tu es Décathlon, que bah, ton produit, il aura une prochaine vie quand il ne pourra plus être un kayak gonflable, il pourra encore être autre chose. Et nous, ça simplifie le process derrière. Et donc, ça permet surtout de montrer aux gens ce que c'est que la circularité. Parce que là, j'imagine, de ce que vous avez entendu, notamment avec les kimonos, bah, ça vous paraît évident. On se dit, mais pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi ça n'existe pas déjà des bandes de collègues pour que... Quand tu fais plus du 4 ans, bah, tu prends celui du 5 ans qui est à côté, ça paraît évident. Et donc, en fait, comment on rend ça évident? Bah, on le montre aux gens, on fait ses bornes, on fait ses produits, et voilà. Et donc, c'est vraiment raconter l'histoire, je pense, qui fait que la vie, c'est que des histoires. On aime raconter des histoires, on aime regarder des films, on aime lire des bouquins, et bah, à chaque fois, c'est des histoires. Et c'est ça qui parle aux gens, et donc, c'est comment on raconte cette histoire avec les entreprises avec lesquelles on bosse.
Très intéressant parce que de vos initiatives, ça amène un changement des modèles économiques de plus grands acteurs. Et du coup, je me tourne vers Tom de Décathlon. Ben, c'est vrai que la question du modèle économique, c'est quelque chose de crucial. En fait, aujourd'hui, Agathe, sûrement, je te poserai un peu ces questions-là. Il y a des questions de passage à l'échelle. Qu'une grosse boîte comme Décathlon s'engage dans l'économie circulaire, c'est crucial, c'est essentiel. Est-ce que... Enfin, je ne sais pas si tu vas pouvoir répondre, mais qu'est-ce que ça représente justement? Enfin, on a beaucoup parlé aussi un petit peu ce matin de fast fashion, de volume, et comment cette économie circulaire ne vient pas s'ajouter à des volumes existants, mais vient en fait remplacer une offre qui est très dommageable pour la planète et les hommes et les femmes qui la fabriquent dans de très mauvaises conditions. Donc, est-ce que ce changement de modèle... peut s'engager dans une entreprise comme Décathlon? Et qu'est-ce qu'il faut? Il faut plus de volonté des consommateurs? Il faut de la réglementation?
Ouais, là, ouais, là c'est, ouais, tu poses en fait un sujet vraiment de fond et je pense de civilisation. On parlait tout à l'heure de schéma de société dans lequel on est. Je pense que en fait, toute la complexité qu'on a créée aujourd'hui et toutes ces habitudes de consommation, tout ce monde d'image dans lequel on est, en fait, vient perturber ces questions de fond qui sont, en fait, comment on habite cette planète, qu'est-ce qui fait sens vraiment dans mon quotidien, dans le vivre ensemble, dans ce qui me permet de me développer en tant qu'humain. Et toutes ces questions-là, en fait, elles sont balayées par des questions d'image, le fait de posséder toujours plus, de paraître toujours plus, et c'est de ça dont il s'agit, puisque finalement, ce qui pose problème dans le fait de passer à une économie circulaire, souvent, c'est une question de fric. C'est une question de fric et là d'un point de vue juste philosophique on pourrait se dire mais c'est absolument débile et c'est bien de ça dont il s'agit. Et donc pour une grande entreprise forcément la question se pose encore plus puisque une grande entreprise vit par l'argent et respire par l'argent et se développe par l'argent et se pense sans doute en fait importante de par la quantité d'argent qu'elle possède. Est-ce que du coup nous sommes capables, nous Décathlon, de changer les choses? Je n'en sais rien. Ce qui est certain en tout cas, c'est que le seul mot d'ordre que moi j'ai envie de partager, c'est qu'il faut oser. Il faut agir, il faut absolument changer les choses. Et si vous avez la chance aujourd'hui, un jour, demain, peu importe quand, mais le plus vite possible, d'être un acteur du changement, quel que soit votre écosystème, je vous encourage forcément à le faire. C'est un challenge au quotidien, c'est un combat au quotidien et forcément, moi je me confronte au fait de dire comment on assure le fait de sortir un produit upcyclé au même prix qu'un produit neuf qui ne l'est pas et comment on s'assure d'en vendre 1 million en un temps record, qui sont en fait des questions absolument absurdes lorsqu'on comprend effectivement le problème de fond. Je dirais qu'aujourd'hui, la seule chance, ou en tout cas l'opportunité qu'on doit essayer de déceler dans ces grandes entreprises, Ben c'est qu'on n'est quand même pas tout seul à l'intérieur et que ben, le financement participatif, nous, on ne doit pas trop le faire. L'argent que ça nécessite pour pouvoir mettre ce schéma en mouvement, il est là dans l'entreprise. C'est juste qu'il faut un peu se battre pour aller le chercher, il faut un peu se battre pour convaincre un maximum. Mais une fois qu'en fait ça c'est fait, ben, quelque part, on ne se pose pas trop la question de savoir combien va nous coûter cet atelier de prototypage pour tester tous nos nouveaux produits, combien va coûter cette semaine de travail à l'autre bout de la France pour pouvoir développer le prochain textile en upcycling. Et donc ça, c'est quelque part essayer de trouver des opportunités dans un monde où il y en a beaucoup, mais qui ne sont pas toujours visibles. Voilà.
Sinon, c'est vrai que c'est une vaste question, cette question des transformations des modèles. Agathe, peut-être à Fashion Green Hub, en mutualisant, en permettant cet appui, c'est aussi ce que vous cherchez finalement, d'être un appui pour appuyer ces petites marques qui devraient mieux se développer.
Alors, petites ou grosses d'ailleurs, j'ai envie de dire, quand on est une petite marque ou qu'on démarre, l'éco-responsabilité, l'éco-circularité est une évidence. En fait, aujourd'hui, il n'y a plus le choix. Il ne faut surtout pas faire autrement, ça n'aurait aucun sens. Surtout qu'il y a une législation quand même qui arrive qui va ne faire que se durcir. Donc si vous avez l'intention de créer quelque chose, faites-le bien, environnementalement et socialement parlant, tout de suite. Voilà, ça vous évitera beaucoup d'écueils, je pense, dans les années à venir. Après, effectivement, pour les grandes entreprises, il y a cette question de coût de faire autrement, parce que ça a un coût. Et donc, effectivement, c'est ce qu'on prône au sein de l'association, c'est que le fait de mutualiser, partager, échanger, et de se dire que sur ces sujets de transformation, il n'y a pas de concurrence entre marques, c'est forcément un levier évident. Tout le monde n'a pas la possibilité d'ouvrir son propre atelier de confection, tout le monde n'a pas la possibilité d'acheter des volumes de matière de dingue, etc. Donc, évidemment, quand on partage les coûts par 2, 3, 4, 5, 10, 20, forcément ça devient plus avantageux, mais ça demande une manière de voir, une manière de penser justement cet écosystème en commun, etc. extrêmement différent de ce qu'on fait aujourd'hui. Il y a une autre complexité aussi en parlant prix, qui est qu'aujourd'hui on a perdu, nous en tant que consommateurs, on a perdu la valeur d'un produit. Même les produits qui sont fabriqués à l'autre bout du monde sont vendus beaucoup trop peu cher. Même ce prix-là, on l'a perdu. Du coup, on part d'une base de consommation qui n'est déjà pas la bonne. Donc forcément, on part de ce constat-là où on est sur une échelle de valeur qui est déjà très très basse. Et en plus, on veut remettre un process local, vertueux, etc. Donc il y a un fossé aujourd'hui qui est difficile à combler. Mais encore une fois, je pense que les législations, les différentes initiatives qui existent, on commence à parler de ces décompositions de prix, etc. Il y a une sorte de transparence aujourd'hui vers le client qui va amener petit à petit à combler ce fossé et à retrouver une noblesse aussi dans ce vêtement et plus juste dire de la consommation. Et voilà. Il y a cette image-là aussi qui est importante à reprendre.
Tout à fait, oui, c'est intéressant. Puis en plus, le défi, c'est en plus le creusement des inégalités, une paupérisation de certaines personnes. Donc comment on arrive à faire concilier tout ça, c'est-à-dire des générations qui sont habituées à acheter des vêtements à 3, 4, 5 euros qui ont un coût caché terrible, mais une responsabilité aussi de ceux qui fabriquent à 6, bas coûts, etc. Donc pour finir, avant qu'on puisse avoir un petit moment d'échange avec vous, Eric Dossin, sur ce changement, sur ce nécessaire passage à l'échelle, comment on peut grandir dans ces initiatives, qu'est-ce que, du point de vue de l'initiative que tu portes, est-ce qu'il y a des rôles des fédérations, du milieu sportif d'une manière générale, par exemple, pour aussi accompagner ces transformations?
Alors, nous, il y a, dans toutes les disciplines sportives, il y a une fédération, Fédération française, de après tennis de table, si vous voulez, ou judo, ou choses comme ça. Au départ, ça part d'une initiative personnelle. À aujourd'hui, on n'est pas arrivé, on n'est pas encore sur une initiative, une volonté nationale. Alors, on entend tout le monde a des bonnes volontés, on va faire ça, mais pour l'instant, on parle toujours d'une initiative personnelle. Comme vous, par exemple, vous partez avec un projet, on a un projet, puis après on s'aperçoit que Bah, ça serait bien de le faire au bout de son jardin, mais on est obligé d'aller au Portugal. Parce que bah, économiquement, au Portugal, c'est deux fois moins cher. Ça peut être frustrant aussi. C'est frustrant parce qu'on se dit, mais pourquoi on ne peut pas le faire au bout de son jardin? Il y a des gens très très compétents au bout de son jardin, mais le problème, c'est que le produit, à la fin, il y a un acheteur, et l'acheteur, il va avoir un prix, il va avoir une valeur qui ne va pas vouloir aller au-dessus. Alors, on l'a habitué à des t-shirts à 3 balles ou à 5 balles. Et puis, par contre, quand il y a un beau produit, ben, il ne veut pas aller au-dessus. Et ça, c'est quelquefois frustrant. Et c'est frustrant aussi chez nous, parce que il y a des gens qui ont des très bonnes idées. On va récupérer des kimonos, mais au niveau national, la Fédération française de judo, bah, ce qu'elle voit, elle, c'est qu'il faut X médailles aux prochains Jeux olympiques, mais les kimonos, ce n'est pas toujours leur sujet de prédilection. Et puis, quelquefois, ils s'en foutent un petit peu royalement, que ce soit au judo, au tennis ou où vous voulez. Donc, pour l'instant, il n'y a que des démarches individuelles qui feront remonter ça. S'il n'y a pas de démarche individuelle, de toute façon, déjà, ils n'y pensent pas, déjà. Donc, c'est pas bon. Par contre, s'il y a mout et mout démarche individuelle, je pense que là, on va bouger un petit peu les traits, on va bouger un petit peu les façons de penser. Je pense qu'il n'y a que cette réponse-là. C'est chacun avec une initiative, et puis après, sur le fait de mout et mout initiative, eh ben on aura des résultats qui seront, à mon avis, meilleurs. Aujourd'hui, il y a une conscience collective qui existe. Maintenant, c'est chaque individualité pousse vers la conscience collective. Que des grands groupes comme Decathlon, par exemple, s'engagent sur ce sujet, c'est très bien. Mais moi, je vais vous donner un exemple. Les Jeux Olympiques, avant, c'était, tu peux me contredire si tu veux, mais c'était les grandes marques. C'était Nike, c'était Adidas, c'était les grandes marques. Moi, je suis super content d'entendre que Decathlon, il y a les moyens, ou il se donne les moyens d'aller représenter sa marque aux Jeux Olympiques. Aller se battre contre Adidas ou Nike, petit Gaulois de Decathlon, alors je ne sous-estime pas Decathlon, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais comparé à Nike ou à toutes ces marques-là, Decathlon, c'est une toute petite marque. Et que Decathlon puisse aller... Oui, mais c'est un je ne dénigre pas Decathlon, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que on va aux States, machin, on va faire à Los Angeles les Jeux Olympiques, on voit que Nike, Coca-Cola, d'accord. Ben moi, je suis très content que cette fois-ci, ce sera Decathlon, d'accord. Et j'ai pas d'action chez Decathlon. Hein.
Ben, merci beaucoup. Je retiens cette idée des actions individuelles et voilà, dont vous êtes tous partis et qui pousse après une action collective probablement. Donc j'espère que ça va vous inspirer pour des questions. On a quelques minutes avant qu'on fasse une pause dans cette même salle. Donc profitez de notre panel, c'était vraiment passionnant. Merci beaucoup. Alors lancez-vous pour vos questions. Oui.
Du coup, on a parlé de toutes les actions qui allaient être un peu autour, donc tout ce qui est au niveau du sport, mais autour des JO. Mais est-ce que du coup, les sportifs, eux, vont être dotés vont avoir des accessoires ou alors du vêtement upcyclé? Parce que ça ferait quand même un bon petit coup de pub.
Oui. En fait, on va co-créer avec des athlètes, mais forcément les athlètes qui sont en partenariat avec nous, parce que ceux qui ne sont pas en partenariat avec nous sont généralement en partenariat avec Adidas ou Nike. Mais peu importe, effectivement, l'idée, c'est d'essayer de faire parler de ce mode de conception un maximum, mais de parler vrai et donc de parler de ce qu'on a vraiment fait et pas de ce qu'on imaginerait faire. Et donc la meilleure façon de faire, c'est de faire porter ces produits-là par les athlètes. Et donc là, on s'engage là-dedans pour que, à la veille des Jeux, nos 33 athlètes portent une panoplie complète qui sera upcyclée. Ouais.
Et nous, on a quand même eu Florent Manodou, Clarisse au judo qui a eu un sac la virgule, il y a eu Perrine Lafont, et là, on va avoir Pierre-Ambroise Boss, pour ceux qui font de l'athlétisme, champion du 800 mètres, voilà, quand même.
Peut-être l'équipe de France de handball qui est en demi va se lancer.
Donc moi j'avais une question, c'était qu'on avait parlé donc comment vous upcyclez et que principalement du coup c'était donc sur une échelle donc nationale, sauf que bah du coup il existe plusieurs poubelles, la nationale, l'européenne et la mondiale, enfin celle de, pour vulgariser donc les plus connues. Donc par exemple que ce soit textile ou diverses, bah du coup pour vos sacs à dos, vous prenez en soi donc des produits jetables ou qui vont donc devenir des produits donc jetés, mais du coup la plus grosse poubelle est à l'étranger en soi et du coup qui réunit du coup celle du monde entier. Est-ce que du coup il y a une volonté donc pas maintenant vu que c'est pas encore véritablement démocratisé à 100% et qu'on n'a pas du coup les moyens financiers, est-ce qu'il y aurait la possibilité de faire du coup des transports pour rapatrier donc nos déchets, parce que du coup on a une source infinie en soi donc de textiles et de produits donc divers pour du coup faire ces produits de manière théoriquement infinie. Est-ce que du coup il y a cette envie dans ce, du coup cette envie donc de commerce circulaire?
En fait, tu soulèves un point que je trouve assez génial parce que ce qui, je crois que ce dont on doit se rendre compte aussi, c'est de comment fonctionnent ces business qui sont un peu parallèles. Et la question de, des fins de vie des textiles aujourd'hui, c'est un vrai business à part entière qui est un business uniquement basé sur le fait d'envoyer 50% de, des produits en Afrique et de faire en sorte que là, ils soient bon, peut-être revendus, mais ou majoritairement laissés dans l'océan. Et en fait, moi je pense qu'il y a, alors l'envie, j'ose espérer qu'elle est partagée. Après l'action, je pense qu'elle démarre dès le marché français, ou en tout cas dans chacun des pays, pour faire en sorte que la majorité des vêtements qui n'ont plus de vie pour le commun des mortels, ou en tout cas plus de vie perçue, ne soient pas spécialement mis dans des bennes relais, mais qu'elle puisse être directement traitée par des gens qui vont lui donner une seconde vie à ce textile, puisque la majorité des vêtements qu'on met aujourd'hui dans ces bornes relais vont en Afrique, il n'y a que 3% qui sont réutilisés aujourd'hui directement pour du réemploi sur le marché même. Et donc tout ce qui passe dans ces circuits-là, on pense qu'ils sont recyclés ou qu'ils sont traités pour une seconde vie. En fait, ils sont collectés pour un business uniquement de transport et de revente. Et donc moi j'aurais envie que l'on ne rapatrie pas ces vêtements, mais plutôt qu'on fasse en sorte qu'ils ne partent pas ailleurs d'abord, et que là on mette quelque chose en place, ce qui sans doute est, je l'espère, du fait des réglementations et des autorités.
Petit mot de la fin,
ouais, petit mot de la fin juste. Pareil, j'adore ta question, et du coup c'est une question qu'on doit tous se poser. En fait, c'est qu'on l'entend beaucoup, on dit que nos propres actes ont un impact. Donc posez-vous la question, en fait, quel que soit votre déchet, où est-ce que vous devez le mettre? Et la question du textile, ok, c'est pas la poubelle noire, ok, c'est pas la poubelle recyclable, ok, c'est machin, du coup je fais quoi? Il y a les bornes relais, ok, mais dans les bornes relais j'ai déjà plein de réseaux, donc renseignez-vous, différents relais. Aujourd'hui c'est la magie d'Internet, hein, vous le voyez tous, hein, en 2 secondes vous avez une info, passez-y 10 minutes pour avoir une info complète et qualifiée qui vous corresponde, parce qu'en fonction de vous, vos envies aussi, vous allez choisir des réseaux différents. Il y a plein de ressourceries, il y a plein de recycleries, il y a plein de choses. Donc prenez le temps, en fait, de décider de vos actes. Et je pense que là, ça aidera, en fait, tout l'écosystème et tous les acteurs, réellement.
Merci. Il y a aussi, peut-être juste pour un petit mot, des organismes, des organisations, des ONG qui font ça un peu partout dans le monde, qui cherchent à, et donc qui, ça ne se développe pas qu'en France, heureusement. Et puis, globalement, on essaye d'avoir des actions pour réduire les volumes et obliger aussi les très grands groupes à être responsables comme on vous le demande à vous, comme on nous le demande à nous. Donc, c'est aussi notre façon d'agir. Un grand merci à tous les 5, c'était vraiment passionnant. Je ne vais plus pouvoir prendre de questions. Vous déjeunez, et merci de votre attention et de vos questions très intéressantes. Vous restez dans cette salle pour déjeuner, c'est ça, et ensuite vous filez à 13h30 dans les ateliers. Donc bon appétit, amusez-vous bien cet après-midi, soyez créatifs, et encore merci.